les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre, mais nous avons, donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations. Et donc, la Bible, clairement, nous dit que nous avons à lutter, que nous avons à combattre. C'est pas une extrapolation humaine, c'est la Bible elle-même qui dit que le chrétien doit combattre spirituellement par rapport, notamment ici, aux puissances ténébreuses. Et donc, le combat spirituel nécessite que nous soyons conscient de l'autre réalité. Et ça, vraiment, si on a réussi ça dans cet enseignement, c'est la fête. Si tous, on peut sortir de cet enseignement en ayant un regard qui tient compte du monde spirituel. En étant tous des gens qui ne vivons pas le nez dans le guidon de la réalité, du concret. Ouais, il y a des voitures, des maisons, mais des gens qui savent qu'il y a un monde spirituel et que ce monde spirituel impacte notre monde physique. C'est essentiel que tout chrétien soit dans cette dimension-là. Et donc, je reprends cet exemple, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais de ce pasteur, mais je trouvais que c'est ça un très bel exemple. Le chrétien qui n'est pas conscient du monde spirituel, c'est comme si, à un moment donné, on vous dit, il y a des snipers partout dans la ville de Charleroi, et que vous êtes là en train de vous balader, « Ah oui, je vais aller faire mes courses, mais non, attends, on te dit qu'il y a des snipers, on te dit qu'il y a un danger. » Donc, c'est être vulnérable de ne pas en être conscient. Alors, il ne faut pas devenir non plus un obsédé de ça. On va voir que c'est pas du tout comme ça que la Bible le conçoit, mais c'est quand même problématique quand on ne voit pas du tout cet aspect-là des choses. Alors, et la Bible en même temps nous dit qu'on doit combattre spirituellement, mais la Bible nous donne tout ce qui est nécessaire pour combattre. C'est pas qu'on est laissé à nous-mêmes. Dieu nous donne les armes nécessaires pour combattre spirituellement, et donc ce sujet ne doit pas nous faire peur. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, nous avons ce qu'il faut, Dieu veille sur nous, la grâce de Dieu est avec nous, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons être conscients et nous devons avoir les outils nécessaires. Alors, donc comme je dis, l'objectif de cette deuxième partie sur le combat spirituel, j'ai essayé que ce soit pas trop long parce que sinon on va jamais s'en sortir de ce machin, mais c'est quand même qu'on soit tous équipés. Quand je dis équipés, c'est qu'on sache tous mais qu'est-ce que je dois faire? Ou comment je peux faire? Comment je dois réagir? Et encore une fois, vous allez voir, on va pas rentrer dans des trucs mystiques ou quoi, on va simplement lire la Bible, mais malgré tout, il faudrait qu'on en sorte tous avec le sentiment qu'on a de quoi combattre spirituellement. Donc avoir les outils et les connaissances nécessaires pour reconnaître et agir face au monde spirituel. Dieu nous a donné la connaissance dans la Bible pour dévoiler les œuvres des ténèbres, et pour nous soustraire entièrement à leur emprise ou à leur influence. En Jésus-Christ, nous avons les outils nécessaires pour reconnaître les œuvres des ténèbres, pour voir quand les ténèbres sont à l'action, mais nous avons aussi les outils pour réagir par rapport à cela. Et je vais tout de suite redire un truc que j'ai déjà dit. Rappelez-vous que les œuvres des ténèbres, ce n'est pas simplement les trucs extrêmes que l'on voit parfois dans la Bible. Typiquement, Marc 5, le démoniaque de Gadara, qui était vraiment... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le monde spirituel et le monde démoniaque agit de façon beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus cachée que ça. Okay ? Alors, une chose importante que je voulais dire, et ça c'est vraiment... c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu, mais je me suis dit, ça c'est un truc quand même qui est important, et je vais dire la phrase comme ça: nous devons tous être conscients que le monde spirituel pèse beaucoup plus que le monde physique. En d'autres termes, le monde spirituel est invisible, mais il pèse beaucoup plus sur la réalité que le monde physique. En d'autres termes, dans ce que nous voyons, nous devons être conscients qu'il y a une part importante qui a une nature spirituelle et qu'il pèse beaucoup plus. En d'autres termes, les esprits, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ont encore plus d'influence que ce que nous pouvons avoir, nous, avec nos mains, nos bouches, nos téléphones, notre argent. Il y a un vrai impact du monde spirituel sur le monde physique. Et donc notre monde est très largement influencé par le monde spirituel, beaucoup plus que nous ne le croyons. Et donc il y a tout un ensemble d'actions, de phénomènes, de réalités que nous voyons qui peuvent avoir une cause spirituelle, parce que les forces spirituelles sont très supérieures aux forces physiques. Alors, pour commencer, quels sont les ennemis de l'enfant de Dieu? Vous les connaissez, il y en a trois. Donc les ennemis contre lesquels on a à combattre: le monde, la chair et le diable. Nous avons à combattre contre le monde, contre la mentalité ambiante autour de nous qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde dans la Bible. Nous avons à combattre contre la chair. C'est ce qui, en nous, à l'intérieur de nous, combat la volonté de Dieu. Mais nous avons aussi à combattre contre Satan et ses anges, c'est-à-dire les démons, qui, eux, sont extérieurs à nous, mais qui essayent d'avoir un impact sur nous. OK ? Donc, dans ce cadre-ci, nous allons nous intéresser en particulier au combat contre le diable, mais plus tard, pas maintenant, mais on parlera aussi du combat contre le monde et du combat contre la chair, parce que c'est aussi, finalement, quelque chose qui nous concerne. Donc la chair, donc vraiment faire la différence entre le combat contre la chair et le combat contre Satan. La chair, c'est en nous. C'est quelque chose, c'est ce qui en nous, ce que les Juifs appellent le Yetzerara, c'est-à-dire le penchant au mal, la tendance humaine, interne, que nous avons au mal. Ok ? La chair, c'est en nous, et donc c'est les convoitises charnelles, les convoitises qui viennent de nous, la convoitise, qui sont liées à la bouche, qui sont liées aux yeux, qui sont liées à la colère, qui sont liées à la sexualité, qui sont liées à toutes les convoitises charnelles, la convoitise des yeux aussi, les convoitises qui sont liées aux possessions matérielles, aux choses que nous voulons avoir, à la cupidité, etc., etc. Et puis, il y a, à côté de ça, il y a Satan qui, lui, est extérieur à nous. Et alors ça, c'est important, hein, parce que vous avez tous déjà vu les films dans lesquels... vous avez déjà vu, parce que vous regardez beaucoup de films, vous avez le temps. Hein, des films où on voit à chaque fois un petit ange et un petit démon sur les épaules des gens. Notamment, il y a un film avec Christian Clavier, comme ça. Vous savez qui c'est, Christian Clavier? Vous ne savez pas, non? Bon, mais donc, en fait, on représente souvent un petit démon et un petit ange. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que cette réalité d'un combat entre le petit ange qui me dit « Sois gentil avec Jean-Pierre, ne le frappe pas » et tout, et le démon qui me dit « Sois fâché contre Jean-Pierre », tout ça, il y a une première réalité qui est en nous, en fait. On nous le présente souvent comme le démon, mais en fait, c'est pas toujours le démon. On n'a pas besoin d'un démon pour avoir envie de faire le mal, nous les humains. C'est l'intérieur de nous, c'est la chair. Et donc, il y a un combat entre notre chair et un combat avec notre esprit, notamment la volonté de Dieu. Okay ? Mais, en même temps, les puissances démoniaques qui sont extérieures à nous vont essayer d'appuyer sur nos convoitises charnelles. D'accord ? En d'autres termes, il y a en nous une envie de faire le mal, mais le diable peut se débrouiller pour nous présenter le mal de façon extérieure, de telle sorte que la convoitise qui est en nous réponde à sa proposition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il peut créer des circonstances. Donc il appuie là-dessus, il appuie sur notre chair, il appuie sur nos tentations, il appuie sur... Voilà. Mais ce n'est pas nécessairement lui qui agit là-dedans. Donc ne l'impliquons pas dans toutes les histoires. Hein. Ça fait bien longtemps. Il y a des moments où il est tranquille dans son lit, il ne fait rien pour qu'on pêche. Parfois on détruit nos vies, tout ça. Donc, mais parfois aussi, il agit pour cela. Et donc ça, c'est important de voir. Et donc, le diable peut avoir des actions qui sont périodiques et qui sont parfois très difficiles à saisir. Hein. Il y a des moments comme ça où on ne s'en rend pas compte. Alors, le chrétien face à l'action démoniaque. Premièrement, un premier type, et ça c'est du rappel, hein, donc je vais aller vite, c'est une première dimension de l'action démoniaque. C'est la tentation. Mais encore une fois, je redis la même chose, la tentation, c'est d'abord en nous. Nous sommes amorcés par nos convoitises, dit le texte. Mais le diable peut agir par rapport à nos tentations. Okay ? Il peut nous présenter des tentations. D'accord ? Et donc, un exemple simple, c'est des tentations qui sont donc extérieures à notre chair, qui viennent du diable. C'est comme par exemple Jean 13, verset 2, qui dit, on l'a déjà lu, « Le diable ayant jeté dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'Iscariote, de le trahir. » Donc, on dit que le diable a jeté dans le cœur de Judas une envie de trahir Jésus. D'accord ? Donc, ça veut dire que, là, on a un bel exemple d'un moment où c'est vraiment extérieur. C'est pas Judas qui s'est levé un matin en disant voilà. Mais donc le diable a réellement comment on dit ça, murmurer une pensée au cœur de Judas pour qu'il ait envie de trahir Jésus. Et puis ensuite, le texte dit Satan entra dans Judas. Donc on avait montré que c'est toujours progressif. Au début, il propose une chose à notre tête, et puis ensuite, il peut vraiment guider nos actions. Et donc, il y a aussi ce fameux texte d'Acte 5, verset 3, qui nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ça veut dire que Satan a une action dans la tentation, c'est un pouvoir de suggestion. Il a le pouvoir de nous suggérer des choses. Okay? Et donc, c'est vraiment... parfois, et c'est ça que c'est pas facile, c'est qu'en fait c'est vraiment la petite pensée qui passe à côté de ta tête, et qui passe à côté de ta tête, soit tu la regardes la pensée, soit tu lui dis bah ouais tu peux rentrer, mais voilà. Et donc c'est pas facile parce qu'en fait on ne sait pas dire d'où vient la pensée, mais il peut vraiment jouer là-dessus. C'est de simplement nous souffler une pensée qui déshonore Dieu, une pensée à faire quelque chose qui déplaît à Dieu, une simple pensée, ok? Mais aussi, le diable peut très clairement aussi agir au travers de circonstances concrètes pour nous mettre dans des positions de... Enfin, j'ai un exemple en tête, mais j'ai pas envie de donner cet exemple-là, parce que sinon ça, on va donner l'impression que c'est toujours la même chose. J'essaie de trouver un autre exemple pendant que... Ouais, je trouverai. Mais donc, il peut aussi être dans l'extériorité. Alors, une autre façon d'agir du diable, qui est encore plus compliquée à voir, ce sont par exemple les oppressions. Donc, les oppressions démoniaques, c'est vraiment lorsqu'une le diable exerce une pression sur la vie d'une personne. Une oppression qui peut se sentir par des angoisses insurmontables, par des craintes sans nom, par des cauchemars horribles, etc., etc. Ça peut se sentir soit dans des domaines de crainte, de peur, de tristesse, mais aussi parfois une oppression qui est plus d'ordre lié à la vie spirituelle. Alors, il y a aussi, c'est des exemples, c'est pour que vous ayez des idées claires, le harcèlement, c'est-à-dire harceler quelqu'un dans les pensées, des pensées accusatrices, des pensées qui nous accusent, qui nous diminuent, qui nous attaquent, des pensées de mensonges dans notre tête, des idées fausses avec lesquelles ils nous harcèlent. Donc typiquement, mais t'es nul, mais tu vaux rien, mais jette-toi à la cendre. Voilà, c'est un truc. Je le dis clairement et je le dis sans, c'est on sait que dans certains processus de mutilation, d'autodestruction, de suicide, etc., on sait que le diable est à l'œuvre aussi. Il n'y a pas que des gens déprimés. Il y a aussi une action démoniaque, parfois pour pousser quelqu'un dans un désespoir le plus terrible. Des pensées blasphématoires, parfois, vous voyez, comme ça, des chrétiens, même des chrétiens, hein, des pensées blasphématoires, des pensées de Dieu est un... Voilà, des pensées d'insultes vis-à-vis de Dieu dans la tête, et tu dis, mais ça n'arrête pas, je n'arrive pas à éteindre ces pensées-là, je suis assailli. Donc c'est vraiment un harcèlement, on appelle ça. Il y a aussi les impulsions. Donc les impulsions provoquées par une action spirituelle. Donc c'est vraiment, par exemple, une impulsion colérique, mais qui dépasse, si vous voulez, juste l'énervement qu'on peut tous avoir. C'est vraiment une impulsion à des paroles de destruction, une impulsion, voilà. Des comportements de résistance à la présence de Dieu. Hein, donc, parfois des gens comme ça qui ne savent pas demeurer dans une église, qui ne peuvent pas supporter d'entendre parler de Dieu, il y a vraiment une résistance comme ça. Il y a des phénomènes spirituels qui parfois peuvent vraiment avoir une dimension. Un serviteur de Dieu racontait que, vous le prenez comme vous voulez, mais enfin voilà. Il racontait qu'en fait, quand il avait des voyages missionnaires, soit à l'aller, soit au retour, il voyait sa femme devenir complètement électrique, en fait. Et donc, ça veut dire que vous devez partir en voyage missionnaire, vous devez aller prêcher, aller prier pour les gens, et vous partez avec des tensions à la maison, des disputes, des machins, et vous êtes déjà dans un mal disposé à ce que vous devez faire. Ou alors au retour, voyez. Donc c'est aussi des parfois, je suis pas en train de vous dire que chaque fois que vous vous disputez avec votre conjoint, non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous vous disputez pas ici. C'est ça que j'aime dans cette église. Que des couples harmonieux, et c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut parfois être comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours se laisser avoir. Hein. On peut très bien se rendre compte, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est cette colère-là? Hein. Mais il peut y avoir des choses beaucoup plus subtiles que ça. Je le répète, le diable ne va pas toquer à votre porte avec des grandes cordes en vous disant « Je suis venu pour détruire ta vie et ton ministère ». Il ne va pas faire ça. Okay, il va faire des choses beaucoup plus insidieuses que ça. Et raison pour laquelle nous devons, comme dirait notre frère Jean-Pierre, rester près du Seigneur. Ça, c'est son expression. Et je la ferai mettre comme épitaphe, près du Seigneur. Mais ça, c'est vrai. Je veux dire, en restant près du Seigneur, c'est là qu'on peut se rendre compte de ce genre de choses. Donc, voilà. Autre exemple, les entraves spirituelles. Les entraves à notre croissance spirituelle, par exemple, un type d'entrave, c'est ne pas savoir se lever le dimanche matin. Non, je plaisante, mais pas vraiment. Alors, je plaisante à moitié, parce qu'on voilà, on se couche tard le samedi soir, voilà, oui. Mais il peut aussi y avoir des phénomènes spirituels qui sont attachés à certains types de fatigue. Donc, je vais y venir après. Donc, on peut avoir vraiment des choses qui s'opposent à notre progression spirituelle. Par exemple, la résistance que nous avons à certaines vérités bibliques. Donc, nous allons bien, j'aime le Seigneur, alléluia, amen. Mais il y a des sujets sur lesquels je peux pas accepter cette pensée biblique, je ne peux pas, c'est... Donc, parfois, il peut y avoir aussi ça. Il peut y avoir simplement une difficulté à prier. Donc parfois des chrétiens comme ça qui disent « mais je n'arrive pas à prier ». Alors, encore une fois, notre chair en nous n'aime pas que nous prions. Donc si vous n'avez pas envie de prier, dites-vous que c'est normal. On est tous dans le même cas parce que notre chair ne veut pas qu'on prie. Ok ? Mais il peut aussi y avoir une action démoniaque parfois pour nous mettre dans une torpeur qui nous alourdit dans la prière. Parfois difficulté à exercer son ministère. Hein, des gens qui vous disent, ça fait des mois, j'arrive plus à prêcher, j'arrive plus à me lever, j'arrive plus. Vous savez que c'est un combat spirituel, hein, le ministère. C'est un vrai combat spirituel. Hein. Ça ne se fait pas naturellement. Ça se fait parfois dans des vrais combats spirituels. Et donc, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Et donc, d'autres types d'entraves aussi, ce sont les entraves dans les actions d'évangélisation. Hein, donc, on est une église, par exemple, qui veut évangéliser, et il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vont pas, il y a des problèmes, des choses qui viennent en s'opposer à ce qu'on veut faire. Et alors, une sœur racontait, encore une fois, moi, si je le dis, c'est que j'y crois, mais vous prenez comme vous voulez, elle racontait que dans leur église, ils évangélisaient et qu'ils remarquaient qu'il n'y avait pas beaucoup de... que les gens ne venaient pas, quoi, concrètement. Et elle expliquait qu'en fait, le Saint-Esprit a révélé à plusieurs dans l'Église qu'il y avait une sorte de voile spirituel devant la porte de leur Église, et qui faisait une sorte de voile d'aveuglement qui fait que les gens ne peuvent pas passer le pas d'y entrer. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'empêchement spirituel, une sorte d'aveuglement spirituel qui empêche les gens de se dire « Allez, on va y aller, on va rentrer, on va... » Vous voyez un peu l'idée. Donc c'est des choses qui existent. Hein. C'est des choses qui existent. Dès qu'on a... C'est pour ça que quand l'équipe d'évangélisation part, ils prient avant. C'est pour ça que nous devons prier pour eux, parce que c'est un combat spirituel. Le diable, il ne va pas vous laisser faire votre truc tranquille. Hein. Il va pas. Donc parfois, ça peut être aussi vraiment, voilà, avant d'y aller, comme par hasard, toute l'équipe, ils sont tous retournés, ils n'y arrivent pas. Parfois, encore une fois, faut pas le voir partout. Ça m'agace quand j'entends toujours des chrétiens, la voiture n'a pas démarré, le diable, enfin bon, fais ton entretien, va chez Veritas et tu vas voir que la voiture m'a démarré, quoi. Mais parfois, ça peut aussi, il peut aussi avoir ce genre d'entrave. Et donc, les autres exemples, c'est vraiment les possessions démoniaques. Mais les évangéliques comme vous n'aiment pas quand on dit ça, tralali, tralala. Et donc, on parle plus de démonisation. Donc là, c'est vraiment quand une personne est sous l'emprise d'un démon, de deux démons en général. C'est vraiment la personne, elle est tenue d'une emprise démoniaque sur la vie de quelqu'un. Et il y a, à côté de ça... Donc l'exemple de Légion, vous lirez dans Marc chapitre 5, ça c'est Légion, c'est l'exemple parfait du diable qui a vraiment une emprise sur quelqu'un. Et alors, il y a l'exemple d'une influence démoniaque, action extérieure, action séquencée. Alors là, c'est la différence, c'est que c'est vraiment, c'est pas, le démon n'habite pas la personne, mais le démon vient la déranger par moment. Et donc... Je ne sais pas si j'avais déjà raconté ce jeune, mais ça c'est très récent. Hein. Ce jeune avec qui je parlais, qui lui, toutes les nuits, il avait il voyait notamment une ombre dans sa chambre, etc. C'était vraiment pas facile, mais c'est séquencé, c'est-à-dire c'est vraiment à des moments particuliers, ok. Et donc dans la question de la possession démoniaque, je vais donner un exemple, je vais essayer de noircir. Un peu l'exemple, mais vous avez par exemple des pratiques, des comportements qui sont vraiment borderline. Hein. Donc quelqu'un me racontait avoir été physiquement présent dans un hôpital psychiatrique alors que un des malades devenait un peu fou. Et donc à un moment donné, ils appellent la police, ils sont dans l'hôpital, mais le malade a vraiment une force surhumaine, en fait. C'est-à-dire que les policiers se mettent à plusieurs sur lui pour le plaquer, il n'y arrive pas. À un moment donné, le gars en question va casser le bouclier en plastique des policiers. Je ne sais pas si vous imaginez la force. Donc déjà, vous avez 5-6 policiers qui essaient sur quelqu'un, il n'y arrive pas. Il casse le bouclier en plastique. Et à un moment donné, même, ils envoient des balles. Des balles, pas des vraies balles au début, mais des balles qui sont censées faire tomber quelqu'un, enfin un peu des balles genre paintball, quoi. Enfin, on se comprend. Le gars, impossible à maîtriser, et jusqu'au moment où ils envoient le chien qu'il attrape au mollet, impossible à maîtriser. Donc, c'est une vraie histoire, toute récente. D'accord ? Et justement, ça a terminé parce qu'ils n'ont rien su faire d'autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des situations qui sont à la limite, à la psychiatrie et spirituelle. On ne sait pas, je ne saurais pas vous dire que c'était spirituel. Mais dites-vous que dans notre monde, il y a, ça existe encore, des trucs où on est là, on se dit, mais ça peut être purement physique, c'est juste un gars qui est fou et qui a beaucoup de force, ok ? Mais ça peut aussi être un truc où on se dit, ça frôle quand même avec le spirituel. Et ça, c'est un truc qui est fort connu, même dans la Bible. Hein, on a des exemples, des gens qui sont impossibles à maîtriser physiquement. Et c'est pour ça que je vous dis que les forces spirituelles sont bien plus puissantes que les forces physiques. Hein. Donc, voilà. C'est un exemple, hein, mais c'est un exemple pour vous dire, ne croyez pas que la Bible, c'est un bouquin de gens. Ça existe sur cette terre. Des comportements qui sont vraiment à la limite avec le spirituel. D'autres exemples, oppression spirituelle par des pensées de mort, par des rêves effrayants, par des atmosphères de pesanteur aussi, de pesanteur spirituelle. Ça se vit parfois dans l'église, des moments comme ça où dans une église, ça décolle pas, quoi. Enfin, quand je dis ça décolle pas, je parle spirituellement parlant, c'est comme s'il y a une chape de plomb. Alors ça peut être un truc tout simplement émotionnel, on est triste parce que Benoît n'est pas là, et quand Benoît n'est pas là, on est déprimé, donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi parfois des trucs très spirituels, où parfois le diable agit juste par une atmosphère qu'il vous envoie. Hein. Il envoie juste quand je dis une atmosphère, c'est vraiment un état d'esprit, une mentalité, une atmosphère spirituelle. Et alors vous êtes tous là, tous déprimés, vous savez pas pourquoi. Mais en fait, c'est une attaque spirituelle contre la communauté, tout simplement. Blocage spirituel, incapacité à prier, incapacité à prononcer le nom de Jésus. Donc, dans un livre, il racontait justement qu'à un moment donné, il discute avec quelqu'un, le pasteur discute avec quelqu'un. Ah oui, donc, voilà, tu es donc croyante, mais tu peux dire, je crois au Seigneur Jésus. Et puis, donc, la personne dit, oui, je crois au Seigneur, je crois au Seigneur, Donc, il sait pas dire Jésus. Il n'arrive même pas à terminer le mot parce qu'il y a en lui quelque chose qui résiste au nom de Jésus. D'accord ? Ça peut être aussi un signe de présence démoniaque. Et donc, parfois des oppositions humaines à l'action ecclésiale. Hein, ça peut être vraiment une église qui est vraiment... ce sont des humains, parfois, qui attaquent l'église, mais il y a une action spirituelle derrière. Certaines maladies aussi, j'ouvre une parenthèse, mais vous lirez Luc 13... versets 10 à 17, qui parle en fait d'une femme qui était courbée et qu'on n'arrivait pas à redresser. Hein, donc, et alors, le texte nous dit que c'était un démon en réalité qui était là. Okay, donc, encore une fois, c'est pas toutes les maladies. Mais, comme chrétiens, nous devons savoir que la maladie peut avoir des causes spirituelles. Nous avons cet exemple-là d'une femme courbée dont la cause était un démon. Nous avons l'exemple de 1 Corinthiens 11 qui nous dit que à cause de la mauvaise prise de la Sainte-Seine, il y avait des malades dans l'Église, c'est-à-dire que la maladie a une cause spirituelle. Et nous avons, et d'ailleurs, le texte de Jacques dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'ils l'oignent d'huile en priant pour lui, et si il a commis un péché, ce péché lui sera pardonné. Donc la Bible montre clairement qu'il peut y avoir un lien entre la maladie et le spirituel. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça existe et on doit le savoir. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, j'avance vite en disant qu'il y a toutes sortes de zones de manifestation, mais la principale zone de manifestation des attaques démoniaques, ce sont nos pensées. La première sphère de combat spirituel, ce sont les pensées. Nous devons garder nos pensées en Jésus-Christ. Nous devons lutter contre les pensées qui ne sont pas de Dieu. Donc, dans des pensées, des comportements, parfois dans les lieux d'habitation, ça arrive aussi. Ça se manifeste aussi par des compétences occultes. Vous avez parfois quelqu'un qui dit, mais moi, j'arrive à voir dans l'avenir, je vois quelqu'un qui passe dans la rue, je vois tout de suite son prénom, et Parfois, il peut y avoir des compétences occultes aussi qui sont données à des gens, et donc là, il faut renoncer à ces compétences-là, mais aussi dans les rêves, dans le physique, dans des lourdeurs spirituelles. Je rappelle aussi que l'action démoniaque, elle est omniprésente et qu'il ne faut pas justement la voir dans des trucs comme je viens de raconter, la personne qui est impossible à maîtriser ou des choses extrêmes. La pensée démoniaque, l'action démoniaque peut aussi se voir simplement dans notre monde. L'incrédulité, l'opposition à Christ, c'est quelque chose qui est démoniaque. La débauche, l'idolâtrie, l'occultisme, la désobéissance massive à la parole de Dieu, d'accord ? Ce sont des choses qui signent l'action démoniaque, même si ça n'est pas, quelqu'un qui vit dans le péché, vous n'allez pas dire, ça n'a rien d'extraordinaire quand on le voit, mais derrière tout ça, dans notre monde en général, il y a une action démoniaque généralisée. Alors une première chose hyper importante comme combat par rapport au monde spirituel, je vais quand même insister là-dessus, c'est que la première chose, c'est que nous avons besoin d'avoir une révélation du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment un point, il faut insister là-dessus. Je viens de vous montrer que ce n'est pas simple. On ne sait pas voir tout de suite quelle est la cause. On ne sait pas voir tout de suite d'où ça vient. Ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est comme les atomes et tout ça. Et donc, nous avons d'abord besoin d'avoir une révélation de l'Esprit de Dieu pour voir ce qui est en train de se passer, pour comprendre spirituellement ce qui se passe. D'accord ? Alors, c'est un peu le cas pour tout, mais vous vous rappelez cette femme qui disait aux serviteurs de Dieu dans Actes des Apôtres, ces gens sont des serviteurs du Très-Haut qui viennent nous annoncer, etc. etc. Et l'apôtre se retourne et leur dit, démon sort de cette femme, comment vous auriez fait pour savoir que c'était un démon ? Vous ne savez pas le savoir comme ça. Et donc il faut un discernement du Saint-Esprit pour voir ces choses-là. Et j'ai envie de vous dire, c'est un premier sujet de prière. Et on doit plus prier pour ça. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyions spirituellement ce qui se passe. Et que nous puissions reconnaître quand il se passe quelque chose qui est spirituel. D'accord ? Quand, par exemple, voilà, hein, mais je sais pas, j'arrive pas à prier, je ne... Ah, là, peut-être que... Mais que le Saint-Esprit nous le montre. Parfois, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les loups dans la bergerie, hein, donc, c'est-à-dire les gens qui viennent, qui s'installent, qui ont l'air normaux, mais qui, en fait, à un moment donné, ils vous détruisent le bazar, quoi. Hein, ils passent par là, c'est la razzia, ils créent des conflits partout, et c'est vraiment, en fait, des envoyés du diable, hein, clairement. Mais c'est spirituellement qu'on peut le voir. Donc on a besoin que le Saint-Esprit nous montre ce qui se passe pour voir derrière le rideau. Et une fois qu'on a ça, on est déjà tranquillisé parce qu'on sait dire, ok, et d'ailleurs la Bible nous parle, vous le connaissez très bien, du don du discernement des esprits. Ça sert à ça. Le don du discernement des esprits sert à reconnaître quand une chose vient de Dieu, quand une chose ne vient pas de Dieu. Et c'est un don extrêmement précieux pour l'Église. C'est un don spirituel, ce n'est pas une capacité humaine. Donc si vous êtes naturellement quelqu'un qui doute de tout, vous n'avez pas nécessairement le don spirituel, le discernement des esprits. C'est un vrai don spirituel. Donc c'est vraiment une capacité que donne le Saint-Esprit à dire, là, je suis face à quelque chose qui est spirituellement animé par le diable. Ça peut être même dans une simple prédication, ça peut être sur une personne, ça peut être sur un comportement où on sait dire, ah, là, voilà. Et donc c'est très important, et dans une église, ce don doit être nécessairement représenté. Et en général, il faut qu'il soit représenté parmi les responsables de l'église, pour voir clair, sinon on ne voit pas clair. On a besoin d'un dévoilement que le Saint-Esprit nous montre, qu'une personne agit dans l'occultisme, on a besoin de voir ça. On a besoin que le Saint-Esprit nous montre qu'une maladie a une origine physique, spirituelle et pas physique. On a besoin que le Saint-Esprit nous montre que Satan fait obstacle à telle ou telle prédication, à telle ou telle évangélie, à telle ou telle action d'évangélisation, de prédication. Ça peut être avant, ça peut être après. Parfois, voilà, le diable peut attaquer. Ben, je suis en train de parler de ça, il n'est pas content contre moi, nécessairement. Donc, il peut aussi vouloir s'attaquer à moi, justement. Et donc, on a besoin de voir spirituellement ce qui se passe, pour être alerte, pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. On peut avoir besoin du Saint-Esprit pour remarquer qu'une situation est une attaque spirituelle. Encore une fois, je reprends l'exemple d'un conflit dans l'Église qui a l'air d'un bête conflit, mais qui en fait parfois est vraiment moussé par le diable lui-même. Mais aussi, on a besoin du dévoilement pour comprendre que notre état personnel est, par exemple, l'effet d'une œuvre du Saint-Esprit. Par exemple, certains types de découragement peuvent être des découragements qui ont une cause spirituelle. Donc, voilà, des abattements, voilà. Le Saint-Esprit nous enseigne, vous lirez 1 Jean 2, 19 à 21, qui nous montre que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin de bouquins, de grimoires, on a juste besoin de l'Esprit de Dieu, mais on doit prier pour ça. Vraiment pour cette révélation de l'Esprit de Dieu, pour voir ce qui se passe, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Mais aussi de bien, hein, attention, hein. On a lu 2 Rois 19, où en fait le prophète prie pour son serviteur en disant « Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur afin qu'il voie et qu'il voie l'armée de Dieu et qu'il voit qu'ils sont plus nombreux. » Donc parfois, c'est aussi avoir les yeux ouverts pour voir, au contraire, l'action des anges, le fait que Dieu est avec nous. C'est pas juste pour le diable, mais on doit aussi être conscient de ça. Alors, je vais finir bientôt, ne vous en faites pas. Premièrement, chose importante, c'est que même avant la mort de Jésus, les disciples avaient reçu une autorité par rapport au monde spirituel. Matthieu 10, verset 1 nous dit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Ok, donc Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ok, et puis il y a Marc 16, 17, qui est un texte qui est controversé parce qu'il n'est pas dans toutes les versions. Mais voilà, moi je ne vois pas pourquoi il faudrait l'exclure, et qui dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Et donc, ça veut dire que nous avons autorité, même avant la mort de Jésus. Alors, faut pas imaginer maintenant l'autorité que nous avons face aux démons. Nous en avons de l'autorité, okay, pour combattre par rapport à ça. C'est une autorité qui est spirituelle. Luc 17 le dit, voilà, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une puissance venant de Jésus pour chasser les démons. Alors, cette puissance, elle est donnée à qui? Cette autorité spirituelle, elle est donnée à tous les croyants. Christ est uni à chaque croyant. C'est ce que nous confessons lorsque nous mangeons le pain. Nous sommes unis à Jésus. Christ habite en nous et il nous donne son pouvoir et son autorité sur les forces des ténèbres. Dieu nous donne son pouvoir, son autorité face aux forces des ténèbres. L'autorité spirituelle n'est pas réservée à certains chrétiens. Il n'y a pas de super chrétien. C'est cool, hein, ça? Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Vous êtes tous des super chrétiens. Et tous les chrétiens ont reçu l'autorité spirituelle pour lutter contre les œuvres des ténèbres. Heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon on serait embêté et chaque fois il faudrait demander à quelqu'un de venir. Non, on a tous. Alors il est évident, hein, qu'il y a les responsables spirituels ont une responsabilité particulière de soutenir les chrétiens par rapport à ça, d'intervenir, de conseiller, d'accompagner. C'est évident, mais je veux dire, en soi, chaque chrétien a cette autorité. Alors je vais ici donner un exemple qui est en fait une citation de Irénée de Lyon. C'est un père de l'Église. Donc les pères de l'Église, c'est vraiment, pour faire simple, on dit parfois c'est les disciples des apôtres. Ouais, on ne sait pas tout à fait, enfin on se comprend. C'est-à-dire c'est ceux qui sont vraiment au tout début du tout début. Okay, et donc Irénée de Lyon, il est né en 140 après Jésus-Christ. Et il dit ceci, donc c'est quand même intéressant, hein, de voir ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi aussi en son nom, ses authentiques disciples, après avoir reçu de lui la grâce, œuvrent pour le profit des autres hommes, selon le don que chacun a reçu de lui. Les uns chassent les démons en toute certitude et vérité, si bien que souvent, ceux-là même qui ont été ainsi purifiés des esprits mauvais, embrassent la foi et entrent dans l'Église. D'autres ont une connaissance anticipée de l'avenir, des visions, des paroles prophétiques. D'autres encore imposent les mains aux malades et leur rendent ainsi la santé. Et même, comme nous l'avons dit, des morts ont été ressuscités et sont demeurés avec nous un bon nombre d'années. Et quoi donc? Il n'est pas possible de dire le nombre de charismes qu'à travers le monde entier, l'Église a reçu de Dieu et qu'au nom de Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce Pilate, elle met en œuvre chaque jour pour le profit des gentils, ne trompant personne et ne réclamant aucun argent, car comme elle a reçu gratuitement de Dieu, elle distribue aussi gratuitement. Et ce n'est pas en invoquant des anges qu'elle fait cela, ni par des incantations ou toutes sortes d'autres pratiques magiques, c'est en toute pureté et au grand jour, en faisant monter des prières vers le Dieu qui a fait toutes choses, et en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle accomplit des prodiges pour le profit des hommes et non pour les tromper. Ça, c'est pas la Bible. C'est après la période, après les apôtres, Irénée de Lyon dit ça. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que les choses qui ont été vues dans les actes des apôtres n'étaient pas limitées aux actes. Après encore, d'autres ont été témoins que des chrétiens recevaient des charismes de Dieu, notamment pour chasser les démons. Et alors il dit voilà, d'ailleurs les gens qui ont chassé les démons après venaient dans l'église. Des gens qui avaient des dons de prophétie, des dons de guérison et tout ça. C'est hyper intéressant, hein, parce que ça montre quand même que c'est une réalité qui a continué après, si vous voulez, les apôtres, et que Irénée là nous dit un truc magnifique, mais c'est vraiment beau. Il dit les chrétiens faisaient du bien à tous les hommes. Voilà, le contexte a changé, les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup moins ouverts à l'évangile, il y a une fermeture beaucoup plus forte. Mais malgré tout, ça montre que on est tous appelés aussi à faire du bien aux hommes au travers de nos dons spirituels. Donc cette puissance, elle est donnée, mais elle est donnée à tout authentique croyant. Vous connaissez le fameux texte de Actes 19 avec les fils de Sceva, où on nous parle de ces juifs qui n'étaient pas nés de nouveau, pas chrétiens, et qui ont voulu chasser un démon. Et le démon lui a dit, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » L'homme dans lequel était l'esprit malin s'éleva sur eux et se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, c'est pas un jeu non plus. Hein. C'est pas un jeu. Les esprits démoniaques, ce sont des réalités. Et ils peuvent avoir des impacts physiques. Hein, donc on ne fait pas ça n'importe comment, on ne fait pas ça à l'envolée, on ne s'amuse pas. D'accord. D'ailleurs, quand on a de ce genre de situation, en général, on demande de l'aide. Hein, moi, j'ai un jour eu une manifestation qui était un peu bizarre. Il y avait un pasteur dans la pièce d'à côté. Je lui ai dit, tu sais venir prier avec moi. Voilà, donc on ne joue pas au cow-boy. Hein. Et donc, l'autre qui est là, ben, il prie pour vous, vous priez pour lui. Et puis après coup, on prie les uns pour les autres. Pourquoi je dis ça, en fait ? C'est pour dire, on ne doit pas en avoir peur. Là, la différence, c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais malgré tout, ce n'est pas un domaine dans lequel on s'amuse, d'accord ? C'est un domaine dans lequel on doit combattre avec les armes que le Seigneur donne. Alors j'ai été très long, il me semble. Je vous propose qu'on en reste là aujourd'hui, avec cette idée que voilà. Je voudrais juste insister, donc gardons cette idée de prier les uns pour les autres. Gardons cette idée de prier pour la pleine révélation du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Église. C'est problématique que des chrétiens ne vivent pas en tenant compte du monde spirituel. Un chrétien en bonne santé, il vit en étant conscient qu'il y a un monde spirituel. Et il y a tout un ensemble de choses qu'on doit mettre en œuvre par rapport à ça. Dieu nous donne tout un ensemble d'outils par rapport au monde spirituel. Il nous donne des outils que nous devons mettre en œuvre. Si je suis conscient du monde spirituel, je vais être conscient que j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier seul, j'ai besoin de prier avec les autres. J'ai besoin de prier pour les autres. Si je suis conscient qu'il y a un monde spirituel, je suis conscient que je dois louer Dieu. Vous savez que la louange est aussi une arme spirituelle. Je vais être conscient que j'ai besoin de lire la parole de Dieu. J'ai besoin d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Quand on a une vision spirituelle des choses, on met aussi en place des choses spirituelles dans nos vies. En d'autres termes, il n'est pas normal que nous vivions comme n'importe qui, où il n'y a pas de place au spirituel dans nos vies. Parce que ça veut dire que nous sommes complètement inconscients du monde spirituel, nous vivons comme des gens qui... Et donc c'est important qu'on se dise tous, qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie par rapport à cette réalité spirituelle ? Le fait de prier, le fait de lire sa Bible, le fait d'être à l'église, le fait de louer Dieu ensemble, le fait de venir à la réunion de prière, le fait de venir à la réunion d'études, le fait de jeûner, le fait... Toutes ces choses sont importantes. Puisque nous vivons dans un monde qui est spirituel, on ne doit pas en avoir peur, on ne doit pas être obnubilé par ça. N'hésitez pas tout à l'heure à manger tranquillement, sans crainte, comme vous aimez bien faire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes pressés tous les jours. Mais ne vivez pas non plus comme des gens qui ne savent pas qu'il y a un monde spirituel. Amen. Amen.